Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
Sophie Durocher.
Tout un spectacle radiophonique.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez sûrement, il y a quelques semaines de ça, je recevais ici à l'émission Mélina Roberge, une des deux jeunes Québécoises qui avait été arrêtée en 2016 pour importation de cocaïne. Je la recevais à l'occasion de la sortie de son livre. Donc, on avait avec ce livre sa version de ce qui lui était arrivé à elle. Eh bien, à partir de demain, sur Crave, on va avoir la version de l'autre Québécoise qui était impliquée dans la même histoire, Isabelle Lagacé, qui a elle aussi été condamnée à une peine moindre de prison en Australie, parce qu'elle témoigne donc dans ce documentaire qui s'intitule « Cocaïne, prison et like », la vraie histoire d'Isabelle. Isabelle Lagacé est avec moi. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Alors pourquoi le documentaire s'intitule « La vraie histoire d'Isabelle » ? Quel est pour vous l'élément central qui était un mensonge jusqu'ici et que vous vouliez remettre la vérité en fait ?
Ouais. L'histoire a fait couler énormément d'encre, puis plein de faussetés qui se sont dites et écrites à mon sujet, notamment moi qui est porn star, travailleuse du sexe, escorte, que j'étais une dealer de drogue en fait là. Il y a eu plein de faits qui ont été écrits et qui ont été très fausses. Donc ce documentaire là m'a permis de remettre les pendules à l'heure concernant ces allégations là aussi, et aussi faire passer le message là qui est le but premier du documentaire.
Oui. Ouais, et c'est quoi ce message là vraiment... c'est quoi ce message là
J'avais vraiment envie, sans essayer de jouer les victimes ou d'attirer la sympathie de qui que ce soit, mettre en lumière ce que je vivais à l'époque, comment je vivais. Donc, on parle de travail dans les boîtes de nuit, consommation d'alcool, consommation de drogue. J'ai sorti d'une relation difficilement, d'une relation abusive, ce qui en est encouru une dépression que j'ai compris par la suite parce qu'au moment des faits, je ne savais pas. J'espère en livrant ce message-là, puis en mettant à nu carrément dans le documentaire que ça pourrait peut-être rejoindre certaines personnes qui pourraient vivre une situation similaire et possiblement les aider à ne pas faire les mêmes choix, parce qu'on pense que ça arrive à personne, mais ça peut arriver à n'importe qui, en fait.
Voilà. Et une chose que j'ai beaucoup appréciée du documentaire, donc c'est trois parties. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en effet, vous avez tout à fait raison, vous ne vous positionnez pas du tout en victime. Vous le dites vous-même à un moment donné. Je n'ai que moi à blâmer. Je pointe pas du doigt quiconque autour. C'est une mauvaise décision. C'est moi qui l'ai prise et je vais en assumer les conséquences. Par contre, est-ce que le fait de dire, en effet, vous racontez que vous aviez eu à un certain moment un conjoint qui vous battait tellement fort que pendant 3 jours, vous pouviez même pas manger parce que vous aviez la mâchoire défoncée, est-ce que ça, c'est pas aussi une façon de nous dire, j'étais fragile et c'est cette fragilité-là qui a fait que j'ai pris cette mauvaise décision?
Je pense pas que cette relation-là m'a rendue fragile, sauf que il y en a de cette relation-là encouru des problèmes financiers.
D'accord.
Et puis, c'est ça plus clair a comme joué ça. Un rôle important dans cette prise de décision-là.
Oui, parce que quand on vous offre 100 000 $ quand on vous offre de nettoyer complètement vos dettes, ben c'est sûr que si vous n'aviez pas de problème financier, vous n'auriez pas pris cette décision-là. Donc, dans le document... Hein, je pense que c'est assez clair de ce point de vue-là. Dans le documentaire, vous prenez bien le soin justement de remettre les pendules à l'heure par rapport au fait que vous n'avez jamais été une star de la porno, que vous n'avez pas été escorte, que vous n'avez pas été une travailleuse du sexe. En même temps, quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, Isabelle, pourrait dire, ben, dire qu'Isabelle Lagacé a été une star de la porno, c'est strictement rien, là. C'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport à dire, ben, Isabelle Lagacé a passé 4 ans et demi de prison parce qu'elle a importé 35 kilos de cocaïne. Vous comprenez ce que je veux dire, Isabelle?
Absolument.
Il me semble que c'est pas si grave que ça, se faire dire qu'on est, se faire faussement accuser, entre guillemets, d'être une star de la porno versus avoir croupi en prison, là. Vous comprenez?
Absolument. Absolument. Mais tu sais, ça, j'assume parce que j'ai fait le choix, j'en ai payé le prix, puis j'ai décidé d'en parler justement pour passer ce message-là. Si j'avais été une actrice porno ou si j'avais été travailleuse du sexe, je l'aurais assumé comme j'assume n'importe quel choix que j'ai fait dans ma vie.
Je comprends.
Mais c'est important pour moi que les gens comprennent que ça, ces histoires-là ont été utilisées pour mousser l'attention médiatique. Puis un peu dans un sens sensationnaliser cette histoire-là que j'ai pas trouvé correcte dans ce sens-là.
Je comprends.
Mais je sais que ça c'est une goutte d'eau puis c'est rien à comparer les accusations que pour lesquelles j'ai plaidé coupable, mais c'est important pour moi que les gens comprennent que c'était pas vrai.
D'accord.
T'sais, je veux dire, je l'assume ça, j'ai payé pour, mais je trouve pas ça correct qu'on ait menti sur ces histoires-là.
Non, mais c'est juste que moi, je suis journaliste, alors c'est sûr que quand on critique le travail des journalistes, ça m'interpelle. Donc, je trouvais ça quand même assez ironique que vous disiez « Attention, les journalistes, vous n'avez pas bien fait votre travail », alors que ça vient de quelqu'un quand même qui avait 35 kilos de cocaïne dans ses valises. Un point que je trouve très important, Isabelle, et je trouve que c'est très important de sensibiliser les gens à ça, moi, c'est en regardant le documentaire que j'ai appris que vous n'aviez pas de dossier criminel ici au Canada. Vous en avez un, bien entendu, en Australie. Vous avez purgé votre peine de 4 ans et demi, mais vous n'avez pas de dossier criminel ici, et vous racontez qu'à un moment donné, vous ouvrez un compte dans une banque, et que la banque vous rappelle en disant, ben, il y a eu une erreur, on peut pas vous ouvrir un compte. Donc, vous êtes une paria au Canada, alors que vous n'avez pas de dossier criminel.
Ouais. Cette attention médiatique-là, me poser énormément de problèmes. Les gens ont fait des recherches, assument que peut-être je porte je suis un danger de récidive, je sais pas. Mais oui, c'est vrai, j'ai pas de dossier criminel, mais les répercussions que la médiatisation a fait dans mon cas. Bon, ça a été une autre bataille à ma sortie. Aujourd'hui, j'ai un compte en banque, travaille, tout va bien. Mais à ma sortie, ça a été quelque peu difficile, ouais.
Ouais. En même temps, cette médiatisation vous a nui, mais vous acceptez de faire l'objet d'un documentaire qui va être disponible donc sur Crave, qui va être beaucoup regardé, vous donnez beaucoup d'entrevues, vous êtes allé à Tout le monde en parle devant 1 million de personnes. Si, la médiatisation, est-ce qu'on peut s'entendre qu'elle vous aide aussi aujourd'hui?
Oui, absolument. C'est... Je ne dénie pas tous les médias. Je veux dire, ça a fait couler énormément d'encre. C'est normal. C'était une des plus grosses saisies de drogue sur un bateau de croisière. C'était du jamais vu. Je comprends. C'est ce que je dénonce. C'est beaucoup plus pour certaines personnes, le manque de recherche. Mm-hmm. Pour d'autres, ça a été, ils ont fait un travail exceptionnel. La raison pour laquelle j'accepte de faire des entrevues et que j'ai accepté, j'ai pas accepté documentaire rapidement, là, tu sais, ça a été quelque chose que j'ai réfléchi avec le temps. J'ai bâti une confiance avec l'équipe de production parce que je voulais vraiment être certaine de l'avenue puis du message qu'on voulait passer au travers du documentaire. Puis la raison aussi pour laquelle j'accepte de faire ces entrevues-là et de livrer mon message, c'est pas pour l'attention médiatique du tout. C'est vraiment pour espérer pouvoir réitérer le message puis peut-être que ça va atteindre d'autres personnes qui sont pas nécessairement enclin à regarder le documentaire puis à écouter ce que j'ai à dire. Mm-hmm. Et encore une fois, c'est pas pour attirer la sympathie des gens ou me victimiser, mais vraiment pour faire comprendre aux gens les raisons qui m'ont poussée à faire ça. Puis, tu sais, je demande pas pardon à personne, mais je pense que tout le monde a droit à une deuxième chance, là.
Oui, ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Avec vous, notre état de droit, même si on n'est pas en Australie, notre état de droit est basé là-dessus. Il y a quelque chose qui me chicote quand même dans le documentaire, c'est que ça s'intitule donc « La vraie histoire d'Isabelle », mais on reste quand même avec énormément de questions. On ne sait pas l'identité des autres hommes qui étaient avec vous et qui pourtant mangeaient à table avec vous tous les jours pendant cette croisière. Vous mentionnez à un moment donné un cartel, mais on ne sait pas lequel. Est-ce que c'est pour vous protéger, pour votre propre sécurité, que vous ne donnez pas plus d'informations là-dessus?
Oui. C'est sûr que, bon, pour ce qui est du cartel, je pourrais même pas vous répondre à savoir lequel. Tu sais, je veux dire, moi-même, il y a plein d'informations que je sais pas. J'étais vraiment au bas de l'échelle. En fait, tu sais, on est le type de personne recrutée seulement qui a le moins d'informations dans toute la chaîne. Pour ce qui est des autres personnes qui étaient impliquées, pour ma part, j'ai décidé de pas les mentionner. Je sais pas de quoi ils sont capables, ces gars-là.
Donc, vous avez peur pour votre sécurité si vous deviez les nommer parce
que... Ma sécurité, celle de ma famille, mes amis aussi.
D'accord.
Je pourrais pas dire à 100% qu'il m'arriverait quelque chose, mais est-ce que je veux vraiment aller jusque-là?
Vous voulez pas prendre la chance?
Non, je pense que, tu sais, mon but là-dedans, c'est de raconter mes faits, comment je l'ai vécu, comment je l'ai perçu, sans entraîner personne d'autre. J'ai pas envie d'aller explorer ça. J'ai envie de vraiment boucler la boucle avec ce projet-là puis passer à autre chose dans ma vie maintenant.
Mélina Roberge a fait un livre qu'elle a coécrit avec Claudia Berthiaume, donc elle récolte des droits d'auteur, donc elle a un bénéfice financier à avoir fait son livre. Est-ce que vous avez un bénéfice financier à avoir fait ce documentaire?
Oui, tout à fait. Je ne vous cacherai pas qu'il y a eu un cachet pour les droits, pour mon histoire là, qui a été versé.
Est-ce qu'on peut savoir combien?
Non. Malheureusement, je ne peux pas divulguer cette information-là. Mais
Isabelle, une fille s'essaye. Une fille s'essaye. Il fallait quand même que je vous pose la question.
Bien joué.
Hein?
C'est un beau travail.
Solidarité féminine, là. En oh, ouais, absolument. Juste entre nous deux, non?
Je vous le dirai off-cam.
Ah, OK.
Non, mais...
Donc, vous avez été rémunérée pour votre témoignage.
Absolument. Oui. Je ne le cache pas. Puis, je veux dire, c'est un montant qui va me permettre de qui va m'aider à remettre sur pied. Puis, on ne se le cache pas, je sors de prison, là, il faut que je refasse mon dossier crédit et tout ça, tu sais, j'arrive sans sous, donc c'est sûr que ce montant-là est bénéfique.
Il y a un moment très touchant, enfin il y a plusieurs moments touchants dans le documentaire, bien sûr, votre père qui raconte quand il l'a appris que vous étiez arrêté, et le deuxième moment, c'est quand votre père... finalement est capable de vous prendre dans ses bras. Non, et il y a un troisième moment d'émotion, c'est quand vous racontez ça. Est-ce que maintenant votre père a repris confiance en vous? Est-ce que aujourd'hui votre père, il peut dire « Moi, je suis fière d'être le papa d'Isabelle Lagacé? »
Ah, c'est mon souhait le plus cher. Je pense que oui. Je peux pleurer parce que mon papa, c'est mon héros, en fait. Yeah. Excusez. Ah, ça me touche. À chaque fois, je parle de mon père. Mon père est la personne que je veux le rendre le plus fière. Il a tellement été présent durant toute la saga, que je sais, je peux appeler ça comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il est fier de moi. Je suis de retour aux études à temps plein, je travaille.
Vous étudiez en quoi, Isabelle?
Je fais un ASC en administration avec un volet assistant médical. Je suis dans le domaine de la santé présentement. Puis c'est à temps plein de soir en plus de mon travail. Donc, en tout cas, je souhaite qu'il est fier de moi. Là, oui. Je fais tout en sorte pour rester sur le droit chemin puis continuer dans cette avenue-là. Mais son aide est précieuse ainsi que toute celle de mes amis et ma famille. Là. Mais oui, mon papa, parce que j'espère qu'il est...
Ben écoutez, on vit dans une société où tout le monde a le droit à une deuxième chance. Je vois pas pourquoi vous n'en auriez pas. Surtout quand vous envoyez ce message pour tout le monde, hein, tous les gens qui seraient tentés par de l'argent facile, ça n'existe pas de l'argent facile. Non. Si on vous présente ça comme étant facile, ben il y a une crosse quelque part, c'est sûr et certain.
Il y a un prix à payer. Ouais.
Il y a un prix à payer, puis personne n'a envie de se retrouver dans une prison pendant 4 ans et demi. Merci beaucoup, Isabelle Lagacé. Bonne chance pour la deuxième partie de votre vie.
Merci beaucoup, j'apprécie.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
Bon, Steve, je sens qu'on va se chicaner, toi et moi, parce que toi, tu m'envoies toujours tes sujets, et là, le sujet, c'est pour ou contre les chansons de Noël. Je veux dire, je te le dis tout de suite, là, il n'y a pas de débat. C'est contre, j'haïs Noël, j'haïs les chansons de Noël. Donc, encore plus, a fortiori, les listes de chansons de Noël. C'est comme une torture multipliée par 10 ou par 20. Non, je te taquine, mais essaye de me convaincre que c'est chouette des chansons de Noël.
Ben, écoute, plus petit, chez nous, on ça jouait beaucoup. Puis c'était un moment, quand j'étais très jeune, là, c'est un moment qui était agréable. Et j'ai été élevé là-dedans. J'ai été élevé dans le vieux tourne-disque parce que je suis assez vieux. Puis toi aussi, tu te souviens de ça, les disques vinyles. Il y avait des disques vinyles très kitsch chez nous. Puis tout petit, moi, j'ai appris à me servir de ça. On écoutait ça. Et plus tard dans ma vie, à un moment donné, entre le cégep puis l'université, j'ai vécu une expérience qui m'a rapproché de Noël beaucoup. Une expérience qu'en ce moment, des Québécois vivent dont on ne parle pas souvent. C'est ces dizaines de Québécois qui partent très, très discrètement, qui traversent les lignes, qui s'en vont à New York vendre des sapins de Noël sur les coins de rue un peu partout, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Québécois qui font ça, puis je l'ai fait. Un jour, il va falloir que je raconte ça, parce que c'est incroyable. Puis là, ben t'es 24-7, t'es sur un stand. Moi, je l'ai fait dans le Bronx, fait que t'as peur au début, t'as la peur au ventre, mais l'esprit de Noël, c'est tellement fort là-bas, puis j'ai vécu 24-7 pendant 36 jours avec de la musique de Noël autour de moi, mais les classiques de Noël, là, vraiment. Ouais. À en devenir fou, mais c'est devenu pour moi quasiment comme une bouée. Puis moi qui ne connaissais pas du tout ce que ça voulait dire un arbre de Noël dans le décorum de New York, là tout à coup ça a changé complètement, et notamment les classiques de Noël, les Bing Crosby et tout ça. Puis pour aujourd'hui, je vais essayer de t'agrémenter ça aussi en écoutant un petit peu de ça. Je vais lancer le premier extrait. Tu connais cette chanson-là, mais là elle a été reprise dernièrement. Puis j'en profite pour plugger j'espère que tu vas aller écouter ça sur Cube Musique. Donc dans la musique à thème, il y a le thème de la musique des fêtes. Puis c'est là-dedans, c'est toutes les nouveautés. Et c'est une chanson qui avait d'abord été composée. Ça s'appelle Happy Christmas, War is Over. Donc tu me vois venir une chanson protestataire de John Lennon. Yoko Ono. Ah, c'est ça, c'est contre la guerre de Vietnam et tout ça. Puis là, c'est repris par un trio qui s'appelle Il Volo, un trio là de trois chanteurs très jeunes, mais qui font dans la musique d'opéra. Et ils ont repris cette chanson-là. On écoute un court extrait. And so this is Christmas. And what have you done? For rich and the poor.
Non, je te concède que c'est une bonne version, mais je vais te dire c'est quoi le problème que j'ai avec Noël. Puis tu nous as dit tout à l'heure que quand tu allais à New York vendre des sapins, que c'était l'esprit de Noël. Ben c'est justement ça. L'esprit de Noël, c'est vendre des bébelles, des petites bébelles, des moyennes bébelles, des grosses bébelles, des bébelles dont tu n'as pas besoin. Et pour moi, Noël, ça se résume en une phrase. On achète avec de l'argent qu'on n'a pas, des bébelles dont on n'a pas besoin, pour faire plaisir à des gens qu'on n'aime pas tout le temps. Je ne comprends pas cette fête-là. Je comprends pas. L'aspect religieux, faites-moi pas croire que c'est pour la naissance du petit Jésus. Il y a plus personne qui croit en rien. L'aspect mercantile, je vois pas en quoi c'est intéressant. Ça fait juste du stress. Et pour les petits enfants, on est rendu qu'ils sont tellement inondés de cadeaux que de toute façon, ils passent Noël à juste pitonner sur leur cellulaire. Jaillit Noël.
Je vais aller un petit peu plus loin, Sophie. C'est aussi, pour moi, c'est vrai que l'aspect religieux, tout ça, c'est terminé. Mais il y a l'aspect quand même des enfants et il y a l'aspect du Noël dans l'œil des enfants. Le deuxième extrait, Pierre Lapointe, une chanson qui est passée un petit peu dans le bar, je trouve, à l'époque. Son album de 2020, un album de Noël, chanson hivernale, c'est un album qui était inégal. Mais il y a là-dessus une chanson de Noël que moi, qui m'a frappé vraiment. Puis là, ben, ça m'a ramené Petit Garçon. Le premier Noël de Jules, on l'écoute.
Jules, c'est ton premier Noël. J'ai écrit ton nom dans le ciel pour fêter ton arrivée, pour annoncer ta venue à ce que tu vas aimer de tout ton être ingénu. Je tiens à ce que tu saches que l'amour est sans issue. Qu'on doit aimer sans retenue.
Alors, tu vois, c'est très joli, mais je pensais que tu allais m'amener sur une autre chanson de Noël absolument magnifique de Pierre Lapointe qui s'intitule « Maman, papa ». Et c'est un homme qui a fait son coming out et il s'adresse à son père et sa mère et il dit « Comment ça se fait que depuis l'an dernier à Noël, j'ai plus de nouvelles. Depuis que je vous ai annoncé tout sourire que j'avais rencontré l'amour après quelques longs détours. » Et là, ses parents ne lui adressent plus la parole. On a ici une petite pensée pour Jérémy Gabriel, ne lui adresse plus la parole depuis qu'il a fait son coming out homosexuel. Cette chanson-là est absolument magnifique. Oui. C'est la seule concession que je pourrais faire à une chanson du temps des fêtes. Ça, puis Maryse Le Tartre, mais c'est un autre sujet. Mais t'as toujours pas répondu à ma question, Steve.
Oui.
C'est quoi pour toi Noël? Si c'est pas religieux, si c'est pas... si toi aussi tu trouves que c'est une fête très commerciale, c'est quoi qui vient te titiller de l'intérieur à Noël?
Le regard encore de mes enfants vieillissants. Quand j'ai eu des enfants, j'ai eu un gros comeback de Noël dans moi. Puis on n'entre pas dans l'orgie commerciale pour Noël. Mais s'il y a une chose, par contre, c'est on va faire ça en fin de semaine. Quand on va chercher l'arbre sur la terre ici, on va couper l'arbre, on l'amène ici. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas rien, il n'y a pas de Wi-Fi dans la maison. On va bâtir l'arbre de Noël ensemble. C'est un moment familial qu'on passe ensemble, qu'on a réussi à garder dans nos vies qui n'arrêtent jamais, dans le temps d'écran des fois pour lequel je dois me battre avec mes enfants comme tous les autres parents. J'ai une jeune pré-ado puis une ado. Maintenant, là, on arrête. Puis malgré tout ça, ça existe encore aujourd'hui. On a essayé de créer, on a créé des beaux moments en famille. Puis on l'a continué. Pour moi, Noël, c'est avant tout une fête familiale. C'est un moment pour prendre une pause, tout le monde en même temps, puis dire, ben faisons-le. Puis je vais t'avouer que ici, là, au nord de Montebello, dans le coin où je suis, quand la neige se met à tomber, il y a quelque chose qui continue encore à m'émerveiller, puis à me plaire vraiment, mais beaucoup, beaucoup.
Oui, mais c'est beau le 1er décembre, comme c'est beau le 32 décembre. Je veux dire, c'est beau l'hiver. C'est l'hiver que t'aimes, pas Noël. Alors, écoute, on encourage tout le monde, si vous aimez ça, à aller faire un tour sur Cube Musique pour écouter de la musique de Noël. Et,
c'est très bien fait. L'application, là, est très, très bien faite. Puis vraiment, j'encourage les gens à aller voir là parce que on va découvrir des trucs, puis on va même voir des articles sur les chansons qu'on voit.
D'accord.
Allez voir ça.
Merci beaucoup, Steve.
Salut, à demain.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir, avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
C'est tout en anglais.
Sophie Durocher.
C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
Le Québécois moyen était
Guy Nantel.
Quelqu'un qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je ne veux pas perdre ma job. »
La rencontre.
Cet asservissement, cette servitude volontaire.
C'est quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis allé à l'urgence, là, j'ai attendu 6 heures, OK? »
La rencontre, Nantel, Durocher.
Mon cher Guy, je pense que quand on regarde dans un dictionnaire la définition du mot « carpette », et il y a une photo de Thierry Fermont, de le recteur de l'Université d'Ottawa. Je pense qu'on pense la même chose là-dessus. Explique-nous pourquoi on trouve tous les deux qui est un peu carpette.
Jacques Frémont, en fait.
Excuse-moi.
Oui. Oui. Jacques Frémont, effectivement, le nom du recteur de l'Université d'Ottawa qui a été amputé de la colonne vertébrale il y a plusieurs mois déjà, on s'en souviendra, à l'époque où il s'en était pris à une professeure, Verouchka, lieutenant Duval, qui avait utilisé le mot « nègre » dans sa classe dans un but pédagogique. Et c'était justement pour enseigner à ses étudiants qu'ils peuvent récupérer des mots péjoratifs, les déconstruire pour ensuite faire avancer des causes nobles. Alors, c'est quand même assez extraordinaire que cette personne-là est en train d'enseigner à des groupes qui sont discriminés, comment ne pas être discriminé et qu'elle se fait elle-même taper dessus.
Ouais.
Ça, c'est ce qui était arrivé il y a quand même 2 ans environ, là, je me souviens plus tout à fait quand. Et ce qui était vraiment paradoxal par rapport à cette question-là, c'est qu'elle a s'est fait mais complètement salir sa réputation, alors que il y avait quelqu'un qui avait publié ses coordonnées sur les réseaux sociaux, puis ces personnes-là, cette personne-là n'a jamais été punie. Il y avait une autre personne qui avait fait un appel à la cyberintimidation de 34 professeurs avec des mots haineux, là, de ces professeurs-là avaient justement été derrière le professeur lieutenant Duval. Et bref, le recteur s'en était jamais pris à personne. Et là, il y a donc un nouvel épisode cette semaine. Alors, l'ambassadeur de Chine au Canada qui vient faire un discours pour les étudiants. D'abord, il faudrait nous expliquer la raison que l'ambassadeur de Chine va faire une conférence à l'Université d'Ottawa, parce que moi, quelque chose que je comprends pas. Toi, là, tu t'en vas faire une conférence, Sophie, pour mettre en question, par exemple, le privilège blanc, là. Mmh. Ben, tu vas être interdite.
Okay? Ben ouais, ils vont te
dire
clair.
Non, va-t'en chez vous, on veut pas t'entendre. Et là, t'arrives, déjà, on fait quelque chose avec un représentant de la plus grande dictature au monde. Et ça, c'est OK. Fait que déjà ça, moi, j'ai de la misère. Puis ensuite, ben, je vais te laisser parler, puis je vais revenir avec la suite.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement le représentant d'une des plus grande dictature au monde, mais en plus, comme il donne une conférence, on sait très bien que ça va juste être de la propagande. Fait que c'est quoi l'intérêt? Si quelqu'un vient donner une conférence et que c'est un dialogue et qu'on peut poser des questions à un moment donné, à la rigueur, ça peut être intéressant. Mais on sait très bien que ce gars-là, de toute façon, il va lire des notes qui auront été approuvées par le Parti communiste chinois, puis que ça va être juste du blabla, puis qu'on va se faire fourrer comme des dindes dans le temps des fêtes. Fait que je vois pas absolument aucun intérêt à une conférence d'un représentant de la Chine, là.
Ben tout à fait. Puis en fait, moi, je suis pas pour censurer le représentant de la Chine, parce que je trouve ça très bien s'il y va, puis qu'on peut y poser des questions,
ben voilà,
qu'on confronte à tout ça. Mais ce que je dis, c'est que cette université-là et les universités maintenant en général sont très sélectives par rapport à de quel sujet on peut débattre et de quel sujet on peut plus débattre. Et soudainement, quand tu viens avec un dictateur qui non seulement arrive, comme tu disais, avec ses notes préparées, mais qui en plus donc fait expulser les médias de la salle. Et là, le recteur Pantin en question, lui, il fait « Aucun problème avec ça, on va faire sortir les médias. » C'est quand même complètement fou. Et évidemment, tout le monde saute au plafond, puis ça s'est rendu jusqu'au premier ministre. Quand c'est rendu que c'est Justin Trudeau qui fait la morale, ouais. Il y a quand même... Il a, je veux dire, en termes de Pantin, on entendra qu'il ne donne pas sa place. Et là, lui, il publie justement un message d'excuse. Donc, le recteur Frémont, il dit « Nous avons pris la mauvaise décision au dernier moment. Nous nous excusons auprès des médias concernés. Nous aurions dû faire mieux pour protéger la liberté de presse. » C'est le recteur.
Mais oui.
C'est le boss d'une des plus importantes universités, un des lieux de réflexion les plus importants au Canada. Mais à quoi tu pensais? C'est ça ta job, tu sais?
Ouais. Alors, il y a deux éléments, moi, qui personnellement me choquent énormément. Donc, en fait, les médias avaient le droit d'être là, mais pas de poser des questions, et ils n'avaient pas le droit de prendre d'image. Alors, le gars est arrivé, l'ambassadeur de Chine au Canada, est arrivé avec sa liste d'épiceries. Ben, il peut bien avoir toutes les listes d'épiceries qu'il veut. Toi, ta job, c'est de te tenir debout et d'avoir une colonne vertébrale et de dire non à la dite liste d'épiceries. Donc, ça, c'est la première chose qui me dérange, que ces demandes farfelues aient été adoubées par Frémont et l'Université d'Ottawa. Et la deuxième chose qui me dérange, c'est que ce jour-là, sachant que l'ambassadeur s'en venait, il y avait des gens qui manifestaient sur le campus de l'université contre le traitement absolument épouvantable que la Chine fait avec la minorité Ouïghour.
Mm-hmm.
Ben, ça aurait dérangé l'ambassadeur. Fait qu'on a fermé les rideaux pour pas que l'ambassadeur soit, qui voit les affiches. Les banderoles des gens qui manifestaient. Mais
c'est
ça,
odieux,
là...
Sophie, c'est odieux. Écoute, le gars honore une dictature en le recevant et il décide de fermer les stores pour pas que le représentant de la dictature voit les gens qui sont opprimés par son régime. C'est quand même fort en tabarouette. Puis ça, c'est des gens qui nous font la morale après ça puis qui nous disent qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire dans les universités, tu sais. Et l'autre affaire, moi, qui m'agace, c'est ils ont jamais le guts de s'expliquer en personne,
non.
D'aller au bac, là, d'aller en conférence de presse, de dire, gars, écoutez, je vais jouer. Non, c'est toujours des petits communiqués que tu sens qui sont gérés puis qui sont écrits par des, tu sais, des équipes de gestion de crise.
Mmh, moi, de relations publiques, ouais.
Tu sais, là, il y a une personne sur Twitter, mais en fait, il y a plusieurs personnes qui parlaient du principe de Peter, tu sais, puis qui dit, ben oui, c'est ça,
principe rappelle, de Peter. Rappelle, c'est quoi, c'est le principe
donné,
de l'incompétence, là, mais ouais.
Au sommet de ce qu'il est capable de faire et jusqu'à son point d'incompétence et je crois qu'il est rendu là, le monsieur.
Ouais, mais moi, ce que je trouve, c'est, bon, ben, je sais pas, t'es allé à l'université, t'es allé où à l'université, toi, Guy?
Ben, je suis allé à l'UQAM, mais une seule session, parce qu'après ça, je suis rentré à l'école.
Ah, ben oui, d'accord. Donc, alors, ben moi, je sais pas pour... mais donc, je suis allé à l'université McGill, puis ensuite, je suis allé à l'université Columbia à New York. L'université, par définition, c'est un endroit où tu es confronté à d'autres idées, tu aspires à l'excellence, où on te pousse dans le dos pour être ambitieux, pour amener un certain dépassement de soi, et surtout, tu fréquentes l'université pour fréquenter des modèles, des gens qui ont réfléchi pendant des années, supposément. Les universitaires sont censés être des gens qui ont réfléchi pendant des années à des principes et à des concepts. Alors moi, je me dis, quelqu'un qui est étudiant à l'Université d'Ottawa en 2022, le modèle qu'on lui présente, c'est non seulement un ambassadeur d'une dictature, mais c'est aussi une direction d'université qui se met à genoux devant des dictateurs. Donc, on repassera pour les concepts et les idéologies qui nous amènent vers le haut. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est censé être des centres d'excellence et ce sont devenus des centres de médiocrité.
Oui, oui, absolument. Mais écoute, quand je vois ça, puis c'est presque justement de c'est drôle que ça arrive avec la Chine, justement, qui a connu justement dans son histoire des régimes avec les gardes rouges et tout ça, là, de rééduquer des masses populaires.
Mais oui.
On dirait que c'est vraiment ça l'objectif maintenant, tu sais. Et c'est pour ça que moi je refuse ses excuses à cet homme-là. Parce qu'il dit nous aurions dû faire mieux pour protéger la liberté de la presse. Je veux dire, tu sais, des fois, tu t'excuses parce que, ah, écoute, j'ai fait tel geste parce que j'avais telle intention. Comment il peut justifier l'idée de sortir des journalistes alors qu'il reçoit un représentant d'une dictature, je veux dire, ces gens-là, là, c'est des gens qui vont toujours à la limite d'un comportement. Ils vont toujours à la limite de ce qu'ils peuvent faire en croyant qu'ils ne se font jamais prendre. Puis quand ils se font prendre, ben c'est toujours l'occasion rêvée pour dire « Ah, finalement, j'aurais pas dû faire ça, excusez-moi. » Puis on vit dans une société où finalement, ben quand quelqu'un est un incompétent puis il s'excuse sans arrêt, ben on a tendance à le garder. Surtout quand c'est des postes prestigieux comme ceux-là. On dit, écoute, s'il s'est rendu là, ça doit être justifié. Mais moi, j'écrivais justement sur Twitter hier qu'il faudrait qu'on commence à se poser des questions en tant que citoyen. Si on finance des universités, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un mécanisme plus transparent sur comment on élit ou on nomme les recteurs dans les universités?
Absolument.
Parce que c'est financé aux trois quarts avec des deniers publics, mais visiblement, ça semble être des amis entre eux autres qui s'élisent et qui se nomment.
Ouais. Alors, une suggestion pour M. Frémont et l'Université d'Ottawa. Donnez donc un petit coup de fil à l'ambassade d'Iran au Canada. Je trouve que ce serait bon d'avoir quelqu'un, l'ambassadeur, qui viendrait faire une conférence et qui pourrait exiger que toutes les femmes présentes se voilent. Je trouve que ça irait tout à fait dans l'idéologie de des carpettes qu'il y a à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup.
Merci à toi. À demain.
Merci.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
Sophie Durocher.
Ben, vas-tu parler de ma carrière ou vas-tu parler de qui c'est Claude Poirier ou ben, si je vais l'annoncer moi-même? Non, mais c'est vrai.
C'est une très bonne entrée en matière, Claude. C'est très solide comme début de podcast.
C'était de la merde. Les deux remises de rançon, c'était de la merde. Mais Sirène est au téléphone. Et dit, si tu viens à Paris, il y a quelqu'un qui va te contacter, puis je vais t'accorder une entrevue. Quand la police donne de quoi un journaliste, il s'attend en retour d'avoir le retour de l'ascenseur.
Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est vraiment très drôle et très bon, hein. Ça nous prend vraiment au trip dès le début. Donc, c'est un extrait du balado 10-4, Les secrets de Claude Poirier, qui est disponible sur la plateforme Cube Radio dans la section balado. Ça met en vedette, bien sûr, nul autre que Claude Poirier. Et c'est une idée de Stéphane Berthomet, dont on entend aussi la voix dans le balado. Alors, ils sont tous les deux avec moi au téléphone. Bonjour à vous deux.
Bonjour, Madame Durocher.
Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour Claude. Monsieur Poirier, 63 ans de carrière. Je pense qu'il y avait une erreur. Je pense qu'on a inversé les chiffres. 63 ans de carrière et la première fois qu'il y a un balado où vraiment vous pouvez nous raconter les secrets. Comment Stéphane a réussi à vous convaincre de faire ce balado?
Ben, je dois vous dire que Stéphane Berthelet, quand je l'ai reconnu, moi, au tout début, il y avait une mauvaise presse de la part des policiers de Montréal, parce que Stéphane n'a jamais eu la langue de bois. Alors, il critiquait le service de police et avec raison. Alors, un jour, il m'a appelé, et puis j'ai eu l'occasion de faire l'affaire du pont avec lui, l'homme qui supposément suicidé. Moi, j'ai jamais cru au suicide du policier du pont à Trois-Rivières. Il m'avait approché pour faire mes signes. Et par la suite, matin, il m'a demandé pour aller déjeuner. Alors, il m'a dit, Claude, j'aimerais faire un balado avec toi. Ça m'avait été offert déjà dans le passé, j'avais toujours dit non. Mais compte tenu de la connaissance que j'avais eue avec Stéphane, qui est consciencieux, qui fait du travail de recherche immense, qui lâche pas le morceau, ben, il a réussi à me convaincre. Et c'est la raison pour laquelle on a fait 10-4 avec Stéphane.
Alors Stéphane, c'est le fun de se faire envoyer des fleurs comme ça par Claude Poirier. En même temps, c'est le rêve pour quiconque travaille dans ce milieu-là et en effet critique du travail policier de pouvoir tendre son micro à Claude Poirier pour qu'il nous raconte ses histoires. Comment vous avez réussi à faire en sorte que Claude nous donne des détails qu'on n'avait pas déjà entendus?
Ben, il faut que je renvoie les fleurs à Claude parce que Claude, il a une mémoire extraordinaire.
C'est fou.
Vous avez entendu dans certains moments du balado quand il raconte, par exemple, au tout début le braquage auquel il assiste. Oui. Il raconte que le braquage tourne mal parce qu'il y a un policier qui est là, parce qu'il est en vacances. Mais il se souvient aussi qu'il est en vacances parce que sa femme a accouché je veux dire, c'est du niveau de détail.
C'est fou.
Assez incroyable. Et en fait, bon, le plus dur dans tout ce projet, bon, ça a été de convaincre Claude, c'est vrai, parce qu'il était réticent au départ, mais Claude, il est extrêmement généreux. Une fois qu'il embarque dans un projet, il y va à fond. Et moi, je suis extrêmement fier parce que, pour moi, Claude, c'est une immense partie de la mémoire du journalisme et du crime au Québec. Et c'était important, je trouvais que c'était vraiment très important pour nous, pour tout le monde, qu'on conserve cette mémoire-là, que Claude nous raconte ses histoires, qu'on ait comme cette mémoire vivante qu'il y a dans le balado. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur.
Ouais. Alors, Monsieur Poirier, j'ai beaucoup ri pendant l'écoute du balado. Entre autres, quand j'ai appris, enfin, vous l'avez peut-être déjà raconté, mais moi, je l'avais pas entendu. La fois où vous étiez déguisé en femme, vous aviez mis une perruque et une robe pour ne pas vous faire reconnaître. Vous avez à toutes sortes de reprises utilisé toutes sortes de stratagèmes pour en arriver à vos fins.
Ouais, c'est dans l'affaire Marion quand ils ont décidé. Quand ils ont décidé de choisir, les ravisseurs avaient choisi Normand Maltais, qui est décédé malheureusement aujourd'hui. Et par la suite, c'est la Sûreté du Québec qui avait demandé aux ravisseurs si c'était possible d'avoir quelqu'un d'expérience dans ce genre d'affaires. Alors, c'est lorsque j'ai été choisi. Alors, on est entré un vendredi soir à la Caisse populaire à Sherbrooke. Et là, les policiers m'avaient dit, bon, on t'a apporté du linge, oui, un manteau, une robe. Des talons rouges, il y a une perruque, je dis, je vais mettre la perruque puis le manteau, mais laisser faire les talons rouges. Puis quand je suis rentré dans le bureau, Normand Maltais était déjà là, puis là, il m'a regardé, puis il a dit, j'aurais dû y passer, le seul gars qui pouvait venir travailler avec moi, c'est avec toi, c'est toi, Claude.
Alors moi, j'ai vraiment envie d'avoir une image mentale de vous, Monsieur Poirier, en belle blonde avec un petit peu de rouge à lèvres, peut-être, mais j'apprécie...
Non,
pas de rouge à lèvres quand même.
Non, pas de rouge à lèvres, non, il n'y avait rien. Puis je peux vous dire, quand je rentrais dans le bureau, le manteau puis la perruque a tombé vite.
Oui, c'est ça, j'imagine. Alors, dès le deuxième épisode, vous nous parlez de deux affaires qui ont vraiment marqué l'imaginaire du Québec. Le dossier de la famille Blas, donc Richard Blas, et aussi, évidemment, Jacques Mesrine. Pourquoi ces deux histoires-là sont importantes et il fallait qu'elles soient racontées dans le balado, Monsieur Poirier? Puis Stéphane, je veux vous entendre là-dessus aussi après.
Dans le balado, il y a des choses qu'on écoute dans le balado là, que j'avais jamais rendu public.
Oui.
J'ai passé une nuit dans un motel avec Jocelyne Derèche. Il était déjà dans le motel et puis il prenait du cognac. Et elle m'a dit, on va avoir un appel au cours de la nuit, ça, vers 3h du matin. Alors, moi, je suis allé fumer parce que je suis un gros fumeur. Et à un moment donné, elle m'a fait signe fait que, avec des 3-4 téléphones, des choses. Le français est venu sur la ligne, puis il m'a dit, si tu viens à Paris, quand t'arriveras à l'aéroport, il y a quelqu'un qui va pouvoir te localiser. Et il voulait m'accorder une entrevue, comme il avait accordé avec une journaliste à Paris Match.
Oui.
Alors, moi, je voulais être avec, parce qu'il ne faut pas se leurrer, là. Il n'y a pas de comparaison à faire entre Blas et Mesrine. Mesrine, c'est deux meurtriers, c'est deux tueurs. Sauf que l'un était plus intelligent que l'autre.
Oui.
Alors, c'est sûr et certain qu'il y a des choses en Blas qui devaient être racontées, parce que moi, j'ai connu les trois, Mario, Mike et Richard. Et je me permettais une parenthèse. Il va y avoir demain soir, dans le cadre du bulletin de nouvelles de Patrice Sarrois à Radio-Canada, une entrevue que j'ai faite il n'y a pas longtemps avec lui. Et je l'ai amené au restaurant Le Roi du Smoke Meat au coin de Saint-Zotique et Saint-Hubert, parce que moi, j'ai une place que j'arrêtais souvent.
D'accord.
Et je rencontrais souvent des gars comme Blas, Alors et compagnie. Alors, c'est des choses que j'avais jamais encore racontées qui sont racontées dans le balado.
Oui. Alors, Stéphane, on vient d'en avoir un échantillon. Une chose qui est fascinante avec Claude Poirier, c'est que c'est un raconteur extraordinaire. Il fait pas juste nous parler du restaurant. Il y a le verre de cognac, il y a le smoke meat, il y a la perruque. Je veux dire, ce genre de petits détails qui fait la différence entre quelqu'un qui raconte platement et quelqu'un qui le raconte de façon passionnante.
Mais ça, c'est vrai. Claude, c'est du bonbon quand il se met à raconter une histoire. Je vais vous faire un aveu, on a dû couper une partie de certaines choses parce qu'on avait trop de stock. J'espère qu'on pourra continuer à faire d'autres histoires avec Claude. C'est vrai que Claude, c'est un raconteur. Puis, faut le dire, moi, je trouve que c'est important, surtout venant de moi, qui vous savez, je suis un immigrant, je vis au Québec depuis 15 ans. J'ai essayé, en tout cas, de m'insérer énormément dans la société québécoise, d'en faire partie à ma façon. Et je suis très admiratif de ce que j'y vois. Et Claude, pour moi, c'est quelqu'un qui est unique dans non seulement dans l'histoire du Québec, dans la société québécoise, mais très certainement dans tout l'univers criminel. Il n'y a personne ailleurs. Moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un ailleurs dans le monde qui a participé à autant de remises de rançon, à 200 négociations dans des prises d'otages, dans des redditions de criminels. Il est unique, notre Claude Poirier à nous, il est unique au monde. Et je trouvais que c'était très important de le mettre en valeur, de le rappeler, puis de lui permettre à lui de se raconter, parce qu'il n'y a personne qui raconte Claude Poirier mieux que Claude Poirier.
Oui, et c'est intéressant parce que c'est aussi l'histoire du Québec, évidemment, à travers vous, M. Poirier. Par exemple, justement, les plus jeunes vont pouvoir écouter le balado et se rendre compte à quel point, justement, dans les années 70, des braquages de banque, des hold-up, c'était monnaie courante, là. C'était vraiment très, très, très lucratif. Évidemment, aujourd'hui, notre banque est dans notre téléphone cellulaire, c'est complètement différent. Bref, vraiment, félicitations à vous deux. Monsieur Poirier, est-ce que je peux vous demander, juste pour moi, juste pour nous, pour nous faire plaisir, juste de nous dire votre signature exceptionnelle, là, un disquette juste pour les auditeurs de Cube Radio.
Alors, disquette, puis encore une fois, je veux remercier Stéphane et Cube pour m'avoir permis de pouvoir se faire ce balado-là, parce que si je l'ai fait, je l'ai fait parce que j'avais confiance en Stéphane, et je dois dire qu'il a respecté ce qu'on avait décidé ensemble, et c'est pas le dernier, je pense, il va y avoir autre chose qui va suivre.
Mais on espère que ça va être évidemment à Cube Radio. Merci beaucoup à vous deux. Donc, Monsieur Claude Poirier, Stéphane Berthomet. Donc, ça s'intitule 10-4, les secrets de Claude Poirier. C'est disponible sur la plateforme Cube. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Marianne Bessette à la recherche, à Charlie Marchand à la réalisation et à très bientôt.
Cube Radio.